RTL.
Vos plus belles années.
Vos plus belles années. Patrick Sébastien.
Rémi Castillo.
Sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Patrick et bonjour à notre invitée, Julia de Funès. Bonjour.
Salut à tous ceux qui nous écoutent. Et comme elle me disait, Julia de Funès, avant qu'on commence cette émission, elle disait déjà mes plus belles années.
Oui, c'est parce un coup de vieux. J'ai quand même 31 ans. Et parler de mes plus belles années avec des tranches de vie, mais c'est terrible. Mais c'est...
Déjà 31 ans. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu t'appelles de Funès, parce que tu aurais très bien pu changer de nom.
Oui.
Quel souvenir tu en as, toi ? Tu avais 4 ans quand il est
mort. Il est mort, j'avais 4 ans, donc j'ai des souvenirs de grand-père assez classiques. En fait, il avait une grande propriété à Nantes et il m'emmenait...
Il cultivait des roses.
Voilà, il cultivait des roses. Il avait son poulailler, son jardin, enfin... Et il m'emmenait donner à manger aux poules comme un grand-père avec une petite fille.
Tu en as pris conscience à quel âge que c'était un grand-père connu?
Très tard. Et en plus, je trouve que la reconnaissance vient d'autant plus maintenant, de nos jours, enfin depuis 5-6 ans. Non, il a été reconnu évidemment de son vivant, mais beaucoup moins que maintenant, parce que les acteurs comiques quand même à l'époque,
il a été
bien massacré aussi par les critiques.
Bien massacré.
Et donc moi, mes années de 8, 10, 12 ans, 14, 15 ans, j'en avais conscience, mais pas à ce point-là. C'est presque aujourd'hui
que j'en ai plus conscience. Il a été très massacré, justement, c'est marrant parce que je l'ai déjà cité d'histoire, mais le jour de son anniversaire, j'étais allé avec lui... Le lendemain où il est venu me voir à l'Olympia, il y avait une conversation surréaliste avec El Kabach et un journaliste,
oui.
Où justement, il y avait El Kabach, il y avait un critique en face.
Oui.
Et il disait à Louis, j'étais juste à côté, il lui disait, qu'est-ce que vous pensez des critiques ? Alors il dit, vous savez, quand vous demandez à un enfant ce qu'il veut faire plus tard, il vous dit pompier. Je veux faire pompier, je veux faire pilote. Il n'y a jamais un enfant qui dit je veux faire critique.
Oui.
C'est pas un métier. Et là, il y avait le critique en face et El Kabach lui dit comment ils sont conduits avec vous. Et lui, il dit alors écoutez, les critiques de droite ont été un peu dures, les critiques de gauche, alors, ils ne m'ont pas loupé. Et c'était comme si c'était écrit. Et El Kabach lui dit qu'est-ce qui vous reste ? Il a regardé le mec dans les yeux, il dit parce que vous avez le public.
Oui, c'est ça.
Mmh.
Exactement.
Et on est en 1983, donc papy, pépé, je ne sais pas comment vous l'appelez.
Bon papa, je l'appelle.
Bon papa disparaît. Tu nous as fait l'annonce de la mort de Louis sur... Oh, c'est une tristesse.
Oui, c'est pas ma plus belle année.
Pas seulement. Non, mais on l'avait choisi pour évoquer effectivement.
Parce que moi, j'ai appris ça dans un bistrot.
Louis de Funès,
j'ai pleuré pendant 3 heures.
Mais juste avant, on avait un petit journal de naissance, tu sais, pour faire plaisir à Julia.
Ah bon,
elle est née en 79. Elle est née en 79, le 4 mars 1979.
Elle est née le 4 mars 79.
On a une coutume.
Et tu sais ce qu'on a ?
Non.
La coutume qu'on a à la maison.
Le CD.
Voilà, le CD de tout ce qui s'est passé le 4 mars 1979 dans le monde sur RTL.
Le journal de la rédaction d'RTL.
Bien sûr qu'il l'annonce. Évidemment qu'il l'annonce. C'est le premier titre.
Oui, j'ai la grosse tête finalement. C'est bon.
Nous avons sélectionné évidemment un fait insolite, Patrick, comme à chaque fois. Et en l'occurrence, il s'agit d'une étude qui était assez original, une étude qui avait réalisé un système d'alarme pour savoir quelle était l'activité qui engendrait le plus d'accidents cardiaques. D'après vous, Julia, Patrick
L'activité, le sport, non ?
Non, pas le sport. Un système d'alarme, forcément, système d'alarme.
Non,
pas le cambriolage.
Bah oui.
Donc c'est le journaliste Brice Barillon, ça ne s'invente pas, qui va vous détailler les systèmes d'alarme les plus efficaces. Et tout d'abord, il va vous décrire les réactions des cambrioleurs qui, évidemment, ne supportaient pas d'entendre les alarmes sur
les
RTL.
Les cambrioleurs, en effet, ne supportent pas ces sirènes qui se mettent tout à coup à hurler en même temps que toutes les lumières s'allument. Leurs nerfs déjà tendus à vif, en général, ils craquent et dans le doute, même si personne ne vient, ils préfèrent décamper. Il y a des détecteurs micro qui réagissent à des bruits présélectionnés, efficaces et subtils, à condition de ne pas les installer derrière un rideau de fer en plein cœur de Paris. Les infrarouges et les radars ont un second avantage pour les commerçants, celui de pouvoir laisser grande ouverte la porte de leur magasin en plein été quand il fait chaud. Quel que soit votre choix, ces systèmes sont les bons puisqu'il n'y a que 0,25% d'échecs, 1 sur 400.
Voilà, ça c'était les actualités du jour où la petite est née.
Exactement.
Tu sais, mon Rémi,
oui.
Elle est belle comme un cœur.
C'est vrai.
Et alors, donc, elle a sorti un bouquin qui s'appelle Coup de philo.
Oui,
et elle parle des idées. Alors, ça c'est intéressant. Ça va vous intéresser. Vous qui êtes derrière votre poste de radio, qui écoutez Patrick Sébastien, Saltimbanque à la télévision.
Et à la radio.
Et qui adore la philosophie. Alors.
Bon en plus.
Le coup de prof de philo, toi aussi.
Oui, parce que ça m'intéresse. C'est ce qu'a fait la petite, là. Excuse-moi de t'appeler la petite. C'est un peu la philosophie expliquée aux nuls, c'est un peu ça.
C'est un peu ça, sauf que c'est pas scolaire du tout. Ça veut pas expliquer Kant en 2 minutes ou Descartes, ce serait absurde, évidemment.
Surtout que si vous essayez de lire Kant,
impossible. Hein,
c'est impossible. J'ai voulu réessayer la critique
de la raison pure.
Non, l'autre.
Raison pratique.
La raison pratique. C'est un enfer au bout de deux pages.
Il y en a pas une pour attraper l'autre.
Tu sais pas dans quel sens faut le lire.
Ouais, c'est une langue étrangère.
C'est une langue étrangère. Ouais, c'est là où la philo est rébarbative. Voilà. Alors que la philo, finalement, c'est quelque chose de simple.
Et, qui nous concerne tous, en plus.
Les cafés de philosophie le prouvent. N'importe qui peut être philosophe, avoir un raisonnement philosophique demain. Tu pourfends les idées reçues. Par exemple, je prends du hasard, au hasard ce qu'il y a là-dedans. Hein. Être épicurien, c'est pas cultiver le plaisir. Tout le monde est persuadé qu'un épicurien...
Même, oui, c'est se faire plaisir. Et en fait, l'idée de cette... Donc, pour expliquer rapidement le concept, je pars des phrases quotidiennes qu'on prononce tous, des proverbes, des évidences, comme être épicurien, c'est se faire plaisir, ou quand on veut, on peut, ou être libre, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. Je pars de ces évidences et je dis... Bah,
tu démontres
personne
que c'est pas
ne
vrai.
Pourrait les contredire, mais justement, oui, un philosophe peut dire le contraire. Donc, j'ai choisi un philosophe sur chaque notion.
C'est quand même des proverbes à la con... ce qu'on nous apprend.
Oui, mais il y a toujours quelque chose de vrai dans un proverbe où, évidemment, quand on veut, on peut, il y a quelque chose de vrai. C'est vrai que la volonté est assez déterminante.
T'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Manodou, elle ne s'est pas cassée. Ouais, vas-y, continue.
Non, d'accord. Et donc, voilà, tout ce qu'on pense ne pas pouvoir contredire, j'utilise un philosophe qui dit le contraire, justement. Et être épicurien, l'idée m'est venue parce qu'à Noël, je voyais toujours des publicités de foie gras.
Soyez épicurien,
faites-vous plaisir.
Alors, c'était quoi, être épicurien?
C'était un philosophe d'abord qui s'appelait Épicure. Antique, évidemment, grec, et qui nous dit, effectivement, le but de la vie, c'est d'être heureux, de rechercher le bonheur. Mais pour lui, le bonheur, c'est pas l'équivalent du plaisir. C'est pas n'importe quel plaisir et c'est pas accumuler les jouissances.
Ah, le plaisir et le bonheur sont deux choses différentes.
Voilà. Et lui, il nous dit, pour arriver à l'état de bonheur, il faut aboutir à un état stable, ne pas être toujours envieux, instable à cause
de ses désirs. Pour expliquer que le plaisir n'est pas le bonheur, tout simplement, si le manger du foie gras, c'est très bon, ça fait plaisir. Si vous en mangez tous les jours, ça devient, vous n'êtes plus heureux du tout.
Oui, puis il nous dit, surtout, vous risquez de pas pouvoir en manger tous les jours, parce qu'il faut pouvoir assumer et s'acheter du foie gras tous les jours. Mais c'est anachronique ce que je dis, évidemment, il ne parlait pas de foie gras, mais il nous disait qu'il faut se contenter des plaisirs naturels et nécessaires, autrement dit du pain, de l'eau. Comme ça, on est sûr d'en avoir toujours à volonté et d'être heureux parce que satisfait pleinement de ce qu'on a mangé. Donc, c'est surtout pas accumuler les désirs et les jouissances.
Voilà, je voulais la faire parler un tout petit peu pendant 5 minutes de ça. On y reviendra tout à l'heure. Elle va nous expliquer encore ce qu'elle explique sur France 5.
Le bonheur selon Julia.
Voilà, qui est un programme court de deux minutes. où je parle de ces notions, de ces proverbes, ces évidences qu'on contredit. En deux minutes, la forme est très ludique, très accessible, il y a des gags. La forme est légère, justement, pour que le fond passe mieux.
Bien sûr.
On va écouter une bande originale de film.
Une chanson qui a été un énorme succès en 1983.
Faut reconnaître le film. Je sais pas ce que c'est.
Facile.
Le film. Attends, non. Je suis nulle, moi, pour reconnaître les trucs.
Film d'Adrienne Lyne, 1983.
Grease.
Non, c'est pas Grease.
Dirty Dance. Non, pas du tout.
Flashdance.
Flashdance, oui, bien sûr.
C'était Flashdance.
Ah, je suis nulle.
Avec Irène Cara.
C'est vrai.
Et c'est quoi la chanson?
La chanson, c'était What a Feeling. Voilà, tu t'en souviens certainement. Et puis, il y a eu 700 000 albums de cette bande originale qui ont été vendus dans les deux semaines qui ont suivi la sortie du film.
Maniac, c'est aussi Flashdance.
Exactement, Maniac de Michael Sambello.
Voilà.
Michael Sambello qui était dans les années bonheur.
Oui, Michael Sambello qui était dans les années bonheur, comme tu disais. C'est dommage qu'on n'ait pas un petit générique TV.
C'est ça dommage. Mais en même temps, on a parlé philo, donc c'était intéressant. Voilà. Hein,
et puis, on va continuer à parler philo. Voilà. Ça s'appelle Le bonheur selon Julia sur France 5. Et le livre s'appelle Coup de philo. La jeune fille est charmante. Elle n'a pas une tête de philosophe. C'est des philosophes d'habitude. Tu t'attends à voir des filles embêtantes avec des grosses lunettes.
Rébarbatives.
En fait, c'est comme ça que l'idée est venue. Toutes les critiques, vous voyez, sur les chaînes des émissions un peu bobo, intello. Je déteste ça parce que c'est vraiment cela. Enfin, être prétentieux et enrober cette discipline qui est déjà très hermétique.
Tous les mecs qui sont derrière la vitre, ils croient que tu es danseuse.
Ah non, parce que je suis petite quand même.
Non, t'es pas si petite que ça.
Bah, c'est de famille en même temps.
Bah, c'est très bien.
On va marquer une pause.
Ça a été bien. Hein.
Oui.
Et juste après, on sera en 1998. Une belle année.
Pourquoi? C'est une fan de foot?
Et je suis devenue. Non, mais juste l'année 98.
Voilà, pour la communion. Ouais. On en reparle.
Ouais.
11h30, 12h30.
Vos plus belles années.
Patrick Sébastien,
Rémi Castillo
sur RTL.
Et les plus belles années ce matin d'une jeune fille que vous connaissez peut-être moins bien, qui s'appelle
Julia de Funès.
Alors, nous allons parler de football.
Oui,
maintenant.
Mais en même temps, vous l'avez choisi pour ça, l'année 98. Hein.
Parce que ouais, je voyais tous les débats sur l'identité nationale et tout. Je me dis, là au moins, quand on a un événement comme ça, que ce soit un grand succès ou sinon c'est les guerres.
Il y a une vraie conséquence philosophique.
Là au moins, on voit vraiment ce que c'est que l'identité. l'unité, le rassemblement, l'amour de la patrie, voilà, de la nation.
Il y a de la moralité partout dans le football. Il y a le côté
fédérateur, vraiment.
Fédérateur. Il y a le, je vais le faire parce que depuis tant que ça me démange et que je voulais la faire à la radio.
Ouais.
Il y a l'exemplarité.
Oui.
On a eu deux événements. Oui. Il y a eu la main de Thierry Henry.
Oui.
Il y a eu la bite de Franck Ribéry. Et franchement, Patrick, entre le coup de main de Thierry Henry et le coup de bite de Franck Ribéry, ce qui me choque le plus, attends, je suis sérieux, ce qui me choque le plus pour l'exemplarité, c'est la main de Thierry Henry. Parce que c'est cautionné une tricherie. Ça, c'est important. Si on en parle philosophiquement, c'est important de si on fait passer cette idée à tous les mômes, que la tricherie peut te faire gagner, peut rester impunie, c'est quelque chose d'assez grave, je trouve.
Ouais. Surtout peut ne pas te faire, enfin qu'on ne soit pas revenu sur le.
Même si elle n'est pas volontaire, tu vois.
De le donner en exemple, c'est vrai que c'est difficile. Mais là, au moins en 98, c'était un climat et puis, tellement en plus gay.
Il n'y a pas eu de photo.
Tu allais faire
non,
la fête ce soir.
Elle était à Bangkok. J'étais à l'autre bout du monde, moi, parce que je faisais des stages. Mon père est pilote à Air France et je faisais des stages d'hôtesse de l'air. Et j'étais à l'autre bout du monde, mais justement, on se retrouvait entre Français et on se rassemblait.
J'étais prof de philo. Tu vois, je faisais des stages d'hôtesse de l'air. Il faut bosser.
C'est crédible, vous croyez.
Si, t'es crédible, bien sûr.
Mais en tout cas, il n'y avait pas eu photo ce soir-là.
Tu vas quand même pas nous passer le document.
Et 3-0.
Ou c'est la fin du match.
Si, mais Patrick, on adore. Tu sais, c'est le moment où on a les poils qui se dressent sur les bras.
On va revivre.
Bien sûr. Alors, en pleine Coupe du Monde, on va pas évoquer les résultats actuels, mais on va revivre cette ambiance euphorique avec les cris de joie et les chants des supporters, que ce soit à Lyon, Paris ou Marseille. La voix venue d'un autre monde, celle de l'actuel directeur des sports d'RTL, Christian Olivier, euphorique.
Mais c'est fini ! Champion du monde !
Champion du monde pour la première fois de son histoire.
On est champion, on est champion.
Inimaginable, c'est super, c'est grand, c'est fort, on a tenu ça plus longtemps.
Journée nationale décrétée le 12 juillet, fête nationale.
Bisous.
Comment trois buts peuvent changer une société, parce que c'est ce qui s'est passé.
Et un climat, une atmosphère, Et puis ça a duré en plus. Mais ça, c'est peut-être le côté français. On est tellement fiers et contents qu'on
le ressasse. Tu l'as analysé philosophiquement, ce bonheur partagé ?
Non, parce que je ne suis pas philosophe. Moi, je n'analyse rien philosophiquement. Je donne envie de lire des philosophes, peut-être, j'espère, mais philosopher, non. Mais c'est vrai que ça fait du bien de réentendre ces moments-là aujourd'hui. Où ça...
Pourquoi sans paix ? Dans le document suivant.
Pourquoi sombrer ? Parce que dans le décor de l'émission qu'on peut apprécier sur France 5, Le Bonheur selon Julia, on a le sentiment de revivre l'univers de Sempé.
Exactement. Pour moi, c'est un dessinateur que j'adore parce qu'il est très philosophe, je trouve. Dans ses traits de crayon, et il y a une philosophie qui se dégage toujours de ses dessins. Et c'est pour ça que Frédéric Lopez, le producteur de l'émission, m'avait dit « Mais dans quel univers ?» Parce qu'on ne voulait pas avoir un cadre très austère derrière une bibliothèque. Parce que déjà, la philo, c'est difficile. Mais en plus, si le cadre était austère, ce serait difficile. Et il m'avait dit « Dans quel univers t'aimerais évoluer ?» Et je lui avais dit « Moi, j'adore les dessins de Sempé. Et je me verrais bien dans un appartement cosy à la Sempé, avec mes livres qui me tombent dessus. » Et donc, le réalisateur, François Ferracci, a essayé de reproduire, enfin, de s'inspirer, sans copier, l'univers de Sempé.
D'ailleurs, quel était le prénom de Sempé, Patrick ?
Georges, non ?
Non, c'est pas Georges. Parce que comme Gottlieb, Buderzo, Franquin, c'est vrai qu'on les connaît par leur nom de famille, les dessinateurs.
Sempé,
alors Gottlieb, c'était Marcel, Uderzo, c'était Albert, Franquin, c'était André, et Sempé, c'était Jean-Jacques Sempé.
On l'écoute ?
Le papa du petit Nicolas, Patrick, qui a récemment été adapté au cinéma grâce au réalisateur Laurent Tirard, l'un des grands succès de l'année passée. Mais savez-vous comment est né justement le petit Nicolas et surtout ce prénom Nicolas ?
Dans une crèche entre l'un et un bœuf, je ne sais pas.
Non mais ça va t'amuser ce document, Patrick. Comment et pourquoi Sempé a-t-il choisi ce prénom ? La réponse de l'intéressé sur RTL.
Je faisais un misérable petit dessin dans un journal belge, Le Moustique. C'était un petit garçon, un dessin humoristique. Puis un jour, le journal belge m'a dit « il faut trouver un nom ». En prenant l'autobus, je vois une publicité pour les vins Nicolas. Je l'ai appelé Nicolas. Et à ce moment-là, j'ai rencontré René Goscinny. Et le directeur de ce journal me dit « vous devriez faire une bande dessinée ». Moi, à l'époque, je cherchais n'importe quel travail. Faire de bande dessinée, je ne savais pas comment m'y prendre. Vous savez, j'avais beaucoup de mal à dessiner. C'était très laborieux.
comme quoi le pinard, ce que ça peut faire.
Voilà, ça mène à tout.
C'est positif. Là, je suis en train de feuilleter. Ah, le fameux l'enfer, c'est les autres de Jean-Paul
voilà,
Sartre.
Jean-Paul Sartre.
Dans en mon fait... livre, je dis que l'enfer, ce n'est pas les autres. Je dis que ce n'est ni l'enfer ni le paradis. C'est, ouais. On est mi-ange, mi-démon.
Oui, voilà.
J'ai
mais
raison
là, oui, mais en fait, Sartre, il nous dit... Parce qu'on souvent, en fait, je prenais un taxi un jour en rentrant de l'aéroport et il y avait des embouteillages plein Paris. Et il me dit, oh, l'enfer, c'est les autres.
C'est l'exemple dans le livre, d'ailleurs.
Voilà, c'est ouais. ça. Mais c'est vraiment c'est véridique. Ouais. Et je lui et évidemment, ça m'a donné l'idée de...
Et Coluche l'avait dit autrement, parce qu'il dit, ouais. Quand on part sur l'autoroute avec ma femme, il y a des cons, on se demande où vont tous ces cons-là. On le voit parce qu'on va chez sa mère. C'est exactement, c'est ça.
Hein. C'est ça, exactement.
Mais Coluche était un grand philosophe.
Ouais. Mais c'est
un
vrai.
Immense philosophe.
Ouais, ouais.
Quand il parlait des disques de Mireille Mathieu et qu'il disait qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus.
Voilà. Et donc là, Sartre ne nous dit pas l'enfer, c'est les autres au sens, c'est les autres qui m'emmerdent. Et qui... Mais l'enfer, c'est le regard des autres, le regard que les autres portent sur moi. Quand quelqu'un nous regarde...
Franchement, je vois les mecs derrière la vitre.
Oui.
Je ne pense pas que ce soit l'enfer, le regard qu'ils sont en train de porter sur toi.
Oui,
ils ont plutôt
pression.
Tendance à aller au paradis. Là.
Oh, oui.
Tout à coup, il y a plus de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde.
Mais c'est un ange.
Oui, c'est
ma petite fille est un ange, c'est une toute petite, comme ça, puis c'est un ange. Voilà.
On va écouter un générique TV, non ?
Oui, alors effectivement, là, c'est une série
c'est
américaine.
C'est le premier, aujourd'hui, le générique
TV. Qu'on a choisi pour Julia.
Un générique télé, ça ?
Oui, c'est une série américaine.
Alors, oh là 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 là.
C'est une série américaine qui a été diffusée pour la première fois en 1998 sur Teva.
Beverly Hills, non.
Ensuite sur M6, non.
Vas-y, dis.
C'est une jeune femme qui s'appelle Ali Mac.
Bill.
Yes,
d'accord.
Ali Mac.
Ah, vous êtes
avec
fort.
Calista Flockhart. T'as jamais regardé ça?
Ça sert de faire des études de philo.
Ça, en plus,
il y a beaucoup
extrait
de films
hein,
qui ont participé. Barry White,
de 1998.
Anastasia, Maria Carré.
On s'en fout.
Voilà. Alors j'enchaîne. Ouais, dialogue entre eux.
Maria Carré, j'ai eu dans une émission, elle n'est pas carrée.
Elle est ronde, oui, d'accord. On a compris.
Du bois, c'est impressionnant.
Dialogue entre deux jeunes femmes qui nous parlent d'un homme.
Je vais te dire, moi, ce qui t'écœure, c'est que j'ai trouvé quelqu'un et que ça marche. C'est ça que t'arrives pas à avaler.
Ouais. Et tu crois que c'est avec Chris que tu vas t'en sortir?
Ouais.
Ouais?
Ouais.
Et ben, s'il te rappelle pas, c'est qu'il veut plus te voir.
Ah ouais, t'es dans sa tête.
Je l'ai pas.
C'est dur.
98,
deux femmes, un film d'Éric Zonka, facile.
Mais qu'est-ce que je viens de te dire?
Ah oui, La vie rêvée des anges.
Gagné, c'était Élodie Bouchèze et Natacha Régnier, qui avait d'ailleurs obtenu un double prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes.
Julia de Funès, quand on fait de la philosophie, quand on a l'esprit tourné vers la philosophie, est-ce que ça aide à vivre ou est-ce que ça pourrit la vie? Ça veut dire que quand on... Tu sais, dans les villages, les simples d'esprit, oui. On les appelait les bienheureux.
Oui. L'imbécile heureux, d'ailleurs.
Voilà, on dit l'imbécile heureux parce que le fait de ne pas être lucide sur le monde, le fait de ne pas réfléchir, rend heureux. Mm. Est-ce que, justement, la philosophie qui consiste à tout analyser, à chercher à comprendre tout, est-ce que ce n'est pas un anti-bonheur?
Je crois pas. Enfin, moi, je ne me prends pas la tête tous les jours à analyser ce que je fais ou comment je vis. Ou ce qui... Non, pour moi, c'est une grande source de plaisir et de réconfort, même quand ça ne va pas. Puisqu'on peut tout aborder selon un autre angle. Donc ça fait du bien quand même, quand on a le nez dans le guidon, dans ce qu'on fait tout le temps, ou qu'on analyse tout le temps ce qu'on fait. Justement, la philo, c'est un regard différé, une distance par rapport à ce qu'on fait. Donc ça permet de respirer un peu. Pour moi, c'est plus un bonheur, un plaisir qu'un enfer.
Voilà, une émission particulière aujourd'hui pour essayer de vous faire comprendre que la philo, c'est pas quelque chose d'inaccessible.
Voilà,
que c'est fait pour
élite,
tout le monde. C'est pas réservé à une élite. Et de temps en temps, ça fait du bien quand on est entre copains. Ça nous est arrivé 25 fois avec des copains pochetrons à 4h du matin dans des bodegas de partir dans des raisonnements philosophiques qui valaient ce qui valait, ce qu'on appelle soi-disant la philosophie de comptoir, mais qui est une approche de la vie qui est vachement intéressante et qui nous fait grandir.
Voilà, là ça se veut pas philosophie de comptoir, ça se veut très populaire, mais au sens noble, vous savez ce que c'est, puisque vous faites justement, vous avez cette.
Comme était ton grand-père, populaire.
Exactement, le point commun, voilà. Et d'être le plus généreux possible, de toucher le public le plus large possible.
C'est très français aussi de considérer que ce qui est populaire est pas noble.
Oui,
hein. C'est très très français. Hein. Mmh. Ça, ouais. C'est vrai que les musiques que je fais, par exemple, sont des musiques populaires. Elles existent dans tous les pays du monde, en Allemagne, en Italie, en Amérique du Sud, et elles sont beaucoup moins méprisées que chez nous. Je sais pas, on a une espèce de complexe
de
supériorité.
Je pense que c'est de la jalousie des élites un peu intello qui...
C'est très, il faudra qu'un jour, on essaie de comprendre pourquoi c'est très français. Est-ce que ça vient de la révolution de 1789? Est-ce que ça, d'où ça vient?
Peut-être de l'aristocratie. On est quand même une société de privilèges où il y avait des classes sociales, et du coup, le populaire, peut-être
on
qu'il
a une
encore
société,
cette histoire-là.
Des, même des encore aujourd'hui, même au niveau politique, il y a cette espèce de suffisance qui pourrit beaucoup de choses.
Ouais.
Et j'ai l'impression que c'est un mal français, voilà. Entretenu, bien entendu. On va écouter un petit peu de pub et on va écouter qui ?
Death Ray, Patrick.
Qui chante live.
Succès de l'année 1998, bravo !
Et une petite question quiz derrière.
Ce sera juste
pour
après.
La belle là Julia là. De Funès.
Et pour les auditeurs.
Ah ouais, t'es belle, attends. T'es un canon. C'est une bombe.
Vos plus belles années avec Julia de Funès sur RTL.
Shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh.
S3 sur RTL, c'était live.
T'as dit tu parles parce que j'ai dit que c'est une bombe. J'ai trouvé magnifique. Tu sais quoi ? Elle est rayonnante,
c'est
cette
vrai.
Jeune fille.
Mais c'est parce que je suis
confirme.
En fait. Je crois.
C'est, ouais. C'est le bonheur selon Julia.
Voilà, t'as toujours ouais. été comme ça ou
ah
ça
non,
vient du mari et de la petite
déprime.
Fille ?
Ah bah non, surtout pas. Non, c'est... non, si, mais écoute, non. Non, ça vient de la petite fille, de tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que l'année là, c'était.
On va en parler de, ça, de l'année de la naissance de la petite fille.
Oui. C'est cette année là, il y a 8 semaines.
Allez, la prochaine question quiz.
La prochaine année, c'est celle du mariage, Patrick. Alors. Le quiz, effectivement, on va diffuser un document qui devrait vous faire penser à un fait d'actualité. Je précise pour Julia, et je vais donner quelques indices aussi pour nos auditeurs, la personnalité qui va s'exprimer n'a plus du tout la même voix aujourd'hui. Deux indices. Le premier, il s'agit d'un comédien. Le second, on est en 1980.
Il a changé de sexe ?
À vous de deviner. Non, pas du tout. Il a un petit peu changé de voix parce qu'il a beaucoup fumé. Voilà. Ah. Ce n'est pas un indice, mais écoutez.
À vrai dire, j'étais assez décontracté, j'y croyais pas beaucoup.
Ouais, et je sais qui c'est,
parce que
c'est
je
mon
pense
copain.
Que la vraie récompense, c'est de faire partie des quatre nominés.
Bon, alors je vois à peu près ce que c'est, je sais qui c'est, donc on va laisser passer les infos et je vous dirai après.
C'est un comédien.
Et je lui donne aucun indice.
Tu veux boire un petit coup avec moi ? On est en 1980. Allez, on redevient sérieux, place à l'actualité, vous écoutez RTL, il est midi.
RTL. Vos plus belles années.
Vos plus belles années.
Patrick Sébastien,
Rémi Castillo
sur RTL.
On vous souhaite la bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre juste après les infos avec Patrick, on est ravis d'accueillir la belle Julia de Funès.
Et qui vient nous parler de philosophie.
Oui, qui nous explique ce qu'est le bonheur.
On avait un petit quiz avant les infos, mais c'était assez facile. Moi, j'ai reconnu le monsieur qui parlait.
Oui, mais alors,
je crois que j'ai reconnu l'événement. C'est pas Claude Brasseur ?
Le fait marquant, effectivement. J'allais vous donner un autre indice. Si je vous dis Espinasse, effectivement,
ouais,
c'est le vrai nom de Claude Brasseur.
Et alors, c'était pas du sport, c'était une récompense.
Oui.
C'était pas un César ?
C'est en 1980. Bien, c'était un César.
César.
Pour quel film ?
En combien ? En 80 ?
En 1980, le 2 février 1980.
Pas la garde des polices.
Si, c'est la garde des polices. c'est la guerre des polices. Mais pourquoi est-ce qu'on avait choisi cette cérémonie des Césars de 1980?
Oui, je sais pourquoi. Parce que j'y étais déjà. Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a choisi.
Alors, raconte.
Et c'est parce que, et moi, j'ai trouvé ça à la fois formidable et à la fois dégueulasse. C'est-à-dire qu'on a remis un César d'honneur. À Louis de Funès. Et je me rappelle très bien parce que Jerry Lewis l'avait embrassé sur la bouche, ça l'avait profondément choqué d'ailleurs. Ça ne lui avait pas plu du tout. Et surtout, ce que je trouvais, et ce que je trouverais toujours dégueulasse, c'est qu'on ne lui ait pas remis un César vraiment pour ses interprétations.
Et qu'on attende que quelqu'un soit.
Et parce qu'on sentait que ça n'allait pas durer très longtemps et qu'on attende les extrémités pour dire tiens, on va te remettre ça. Un peu comme, je ne sais pas si, comment il l'a pris.
Mais c'est toujours, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'était le comique aussi qui n'était pas du tout valorisé, qui n'avait jamais de récompense.
Et qu'il n'est toujours pas d'ailleurs aujourd'hui.
Non.
On va quand même écouter cet extrait avec Jerry Lewis.
Bien sûr.
C'est assez drôle, écoutez, sur RTL.
Louis, to present to you from the French Academy this award of great... To Louis de Funès, I said formidable. Bravo.
Et Louis, qui était un être excessivement pudique, ça l'a vraiment choqué que l'autre l'embrasse sur la bouche. Là. C'était vraiment...
Il était très pudique en plus. Donc c'est pour ça qu'il était, enfin, de ce qu'on raconte ma grand-mère, mais mon père, il était très, très impressionné. Il ne s'y attendait pas, ça n'avait pas du tout été répété, c'était improvisé totalement.
Alors on est en 2001 et Julia se marie.
Et voilà.
Ça fait déjà.
L'enfer commence. J'embrasse mon mari.
Dit l'enfer commence, j'embrasse mon mari.
Mais non.
Il t'a fait une belle petite fille.
Oui, en plus. Non, c'est fantastique.
Ce qui reste des mariages chez les enfants, de toute façon.
Tout se déconstruisait autour. Il y avait le 11 septembre, les tours qui s'effondraient. Et puis moi, je commençais à construire ma vie.
C'est là que le siècle a commencé, en fait, le nouveau. Tu t'es marié quand?
En novembre, le 9 novembre.
Juste après.
Juste après. Ouais. Mais c'était surréaliste. C'était le fait de voir ça en direct. Moi, c'est ça. Il y avait vraiment eu un avant et un après ces événements-là.
Je crois qu'il y aura un avant et un après 2001 pour tout le monde.
Oui,
ça a vraiment commencé là. La peur, le
nouveau terrorisme, plein de choses. Les nouvelles menaces. Ouais.
Le nouveau siècle. On va écouter un peu de musique.
Oui, ce qui passait,
vite fait, ce qui passait en 2001 pour ton mariage. Il y avait de la musique à ton mariage?
Bien sûr, il y avait de la musique.
Qu'est-ce qu'il y avait comme musique?
C'était
comme dans Le Parrain, il y avait un grand orchestre.
Non, pas du tout. Mais enfin,
il était comment ton mariage? C'était un mariage simple, grandiose, château?
Non, pas grandiose château, mais enfin une belle abbaye, l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Mais assez, enfin vraiment très, avec nos amis, mais assez traditionnel, ouais, quand même. Assez classique, on est classique dans la famille.
On est classique dans la famille. Ça, j'en suis pas certain. Qu'on soit classique.
Pas classique dans l'esprit, mais classique en apparence.
Tu as un mélange de jeune fille posée et de malice.
C'est parce que je suis timide, que j'ai l'air posée, mais...
Et on écoutait ça.
De Balmas.
Ah,
Il n'y a qu'une seule vie.
Ouais.
Et puis Moby.
Find my baby.
Et puis en 2001, il y a Zazie. On va écouter Eric Emmanuel Schmitt.
Oui,
pourquoi
parce que c'est l'un des auteurs préférés de Julia. Je crois que vous avez lu tous ses livres.
Ah, j'ai tout lu. Je suis allée voir ses pièces de théâtre. Vraiment, je l'adore. Et justement, lui aussi, il a je crois que c'est l'auteur le plus traduit dans le monde, qui est joué le plus aussi dans tous les pays. Et il a ce côté aussi populaire, mais au sens noble du terme, de plaire vraiment, d'avoir un langage universel simple, assez simple quand on le lit. Mais très gourmand, il donne envie de... Vraiment, j'adore.
Alors, en 2001, puisque c'est l'année que vous avez choisie pour votre mariage, il préparait l'adaptation sur les planches de son roman Oscar et la Dame Rose.
Magnifique.
À l'époque, avec Daniel Darieux et Michel Larocque, qu'on avait reçu récemment, Patrick, qui avait repris le rôle en décembre dernier.
Exactement.
Nous allons donc l'écouter, Eric Emmanuel Schmitt, qui va nous parler d'amour, forcément, pour votre mariage, et plus précisément de la façon dont on doit être aimé. Eric Emmanuel Schmitt, vous pourrez réagir, évidemment, juste après, dans vos plus belles années sur RTL.
Je veux quand même comme je suis. Ce n'est pas se mettre à plat devant l'autre que de vouloir en être aimé. C'est d'abord une manière de se présenter à l'autre avec ce qu'on a de meilleur, en lui disant, voilà, j'ai ça. Tu vois, regarde, j'ai tous ces trésors, j'ai tout ça. Est-ce que tu aimes quelque chose dans tout ça? C'est ça la relation qu'on a avec autrui. Je pense que le regard de l'autre est comme de l'eau qui arrive sur le désert, c'est-à-dire fait naître des choses. Moi, je n'ai fait certaines choses dans ma vie que parce que des gens me l'ont demandé.
Alors, on va y repartir dans la philo. Est-ce que l'amour, c'est d'abord s'aimer soi-même?
S'aimer soi-même, oui, je crois que c'est indispensable pour être rayonnant, donner envie d'être aimé, enfin de se faire aimer en tout cas. Mais ce qu'il dit, c'est aussi assez difficile parce qu'on fait. Moi, je fais tout aussi par amour, tout le que ce soit des choix, des décisions.
Est-ce que c'est la clé?
Je crois que c'est le moteur de tout.
Comme je le prétends.
Ouais, moi, je pense aussi que c'est le moteur de tout. Si on ne fait pas les choses par amour pour quelqu'un... Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis très comme ça aussi, plus passionnée que raisonneuse. Mais après, si on aime que pour les qualités de l'autre, ça, c'est Pascal aussi. C'est un autre philosophe qui dit, si on aime parce qu'il est beau... Blaise, voilà. Parce qu'il est beau ou parce qu'il est intelligent, si ses qualités viennent à disparaître, qu'on vieillit, ben on est de moins en moins beau. Est-ce qu'on finit par ne plus aimer la personne en face? C'est difficile aussi d'aimer vraiment que pour des qualités.
Je ne cautionne pas les propos de Blaise Pascal. Je déteste
plus,
Blaise Pascal.
Il faut des qualités.
Je déteste Blaise Pascal parce qu'il a inventé la roulette. Voilà. C'est vrai.
Ouais.
Qui est un instrument du diable.
Le discours de la méthode, non? C'est pas lui?
Non.
Non, ça c'est Descartes. Mais oui, c'est vrai, c'est des René. Ouais, René Descartes.
Oh, donc à côté de la roulette, il y a souvent Descartes. Mais...
Vous êtes bon prénom.
Joli, hein.
Générique TV.
Un petit générique TV.
Oui, générique très très connu, encore une série américaine.
Ah, enfin, si, ah ça, mais je c'est pas ça. Beverly Hills, ça.
Non.
Oh non, oh là là. Friends, bien
oui,
sûr.
Bon
oh,
chant,
je regarde
voilà.
Oh là là.
Les Rembrandts.
Un petit extrait de film.
Ah, tu veux
enfin,
pas chanter?
Un petit extrait de film, s'il
bon,
te plaît.
Bon, d'accord, extrait de film, donc je ne parle pas de
générique. Laisser envahir par les Américains.
Alors, un homme assez âgé va parler d'une chanson pour faire la cour à une jeune femme.
C'est la chanson préférée d'Emily. Un cadeau de Jean pour un de nos anniversaires de mariage.
C'est français?
Un peu oui, trop mélo pour moi.
2001?
Préféré oui. Quand on mettait l'autre face.
Tu connais pas le comédien?
Ah, je sais pas danser la valse, moi.
Et la comédienne?
Mathilde Seigné.
Oui, Mathilde ouais. Seigné, bravo.
Céron, non
c'était Michel Céron.
Ah oui, c'est
Michel
le
Céron, Mathilde Seigné.
Le truc à la campagne. Là.
Les Hirons. Pas les Hirons, non.
Une hirondelle. On est au.
A fait le printemps.
Oui, on est wow. Au printemps.
Voilà une belle phrase philosophique aussi. Une hirondelle a fait le printemps.
C'est l'été maintenant, donc oui, effectivement. Depuis le 21 juin, c'est ça? C'est l'été?
Une hirondelle a fait le printemps.
Courte pause, Patrick, et juste après, on sera en 2008.
D'accord.
Vos plus belles années avec Julia de Funès.
Sur RTL. 11h30, 12h30.
Vos plus belles années.
Patrick Sébastien.
Rémi Castillo.
Sur RTL.
Et ce matin avec nous, Julia de Funès, qui en 2008, après la philosophie, après avoir tenté d'être hôtesse de l'air...
Non, pas tenté, je faisais des stages.
Je faisais des stages d'hôtesse de l'air avec papa. Comment il a été ce papa, ce Olivier? Parce que c'est une carrière assez intéressante, le papa de Julia, qui était donc le fils de Louis et qui a joué avec son père. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de rôles. Et il s'est tourné. D'un seul coup, il est parti. Il aurait pu faire une carrière
oui,
de cinéma.
Oui, on en parlait il y a une semaine, j'en parlais encore avec lui. Il me disait, mais ça, c'est de famille aussi. Il ne se trouvait absolument pas doué dans les films. Il s'est dit très tôt. Mais oui, mais tout le monde l'aimait bien. Mais lui, il s'est dit très tôt, non, je suis pas fait pour ça, c'est pas possible. J'ai pas de don particulier.
Mais c'est le grand-père qui l'a poussé à jouer, qui le.
Je crois pas, franchement, il avait envie de. C'était très luxueux. Il faisait ça en stage d'été ou en petit boulot, ça commençait bien pour lui. Mais je crois pas que ce soit mon grand-père qui l'ait vraiment poussé ou incité à le faire. Mais en tout cas, depuis très jeune, je crois, il voulait être pilote, c'était sa passion. Donc,
il a suivi son long courrier, il a fait
long courrier, sur Air France, et il a poursuivi son goût personnel.
Ça devait être marrant, les mecs qui montaient dans l'avion, il a dû avoir des gags
ça,
avec
y a
ça.
Le commandant, les passagers qui faisaient le signe de croix quand ils entendaient le.
Le commandant de Funès vous accueillait, c'est ça. Ah, il y a notre ami. Notre ami Gilles qui nous dit, moi je suis monté dans un avion où il a entendu ça, et alors ça foutait les jetons.
Vous êtes resté.
Le commandant de Funès vous souhaite la bienvenue à bord de cet avion.
Mais il était extra, un bon pilote.
Donc voilà, nous sommes au début de l'aventure télé en 2008 sur France 5.
Tout début.
Qui te lance là-dedans?
C'est Frédéric Lopez. J'avais fait un stage.
Mon ami Frédéric.
Ouais, j'avais fait un stage quand j'avais 18 ans, un stage d'été aussi. Je lui faisais ses petites fiches pour quand il recevait les acteurs, comme au cinéma, voilà, sur France 2. Mmh. Et puis il m'avait proposé un boulot justement à l'issue de ce stage-là, et je lui avais dit ah non, faut que je continue mes études, faut que j'aie un diplôme et tout. Je suis assez trouillarde quand même. J'étais assez trouillarde à l'époque, donc je voulais me blinder question diplôme. Et 10 ans plus tard, je le rappelle, c'était le même numéro de portable, et je lui dis, je sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'avais fait un petit stage il y a 10 ans et j'ai une idée aujourd'hui de programme ou de voilà, j'aimerais vous en parler. Est-ce qu'on peut se rencontrer 10 minutes dans un café? Il m'a dit, j'aime bien aller, t'as du culot, on y va, on se rencontre dans un café. Et je lui ai présenté l'idée, il m'a dit « Ok, ça me plaît, on fonce ». On a fait un pilote en 2008. Après, ça a mis 2 ans à se mettre en route avec les problèmes de chaîne, etc. Et puis ça s'est fait donc là, en janvier 2010. Voilà, les petites 2 minutes voient le jour.
On va parler de Florence Foresti.
Oui.
J'adore.
T'adores.
Oh là là.
C'est pour ça qu'on l'a choisi.
Quelle femme. Ouais,
forcément. Quelle femme. Ascension fulgurante, hein, en l'espace de moins de 10 ans, elle s'est imposée comme une référence de l'humour féminin. Alors, on parlait bébé tout à l'heure. En 2008, elle avait fait une pause professionnelle pour donner naissance à sa fille. Et puis, elle était de retour sur les planches avec une pièce qui avait pour titre
La Fabricus. Elle a fait une pause aussi pour La Fabrique, et je te rassure.
Oui, bien sûr. On va donc l'écouter, Florence Foresti, qui est actuellement en tournée, hein, avec son dernier spectacle Motherfucker. Et dans le cadre de l'émission Laissez-vous tenter, dans l'extrait que nous avons choisi, elle va nous parler de son enfance, des angoisses qu'elle avait lorsqu'elle était plus jeune et d'une manie qu'elle a par contre toujours avec ses doigts. Florence Foresti.
Ah, elle en a des manies.
Avait été interviewée par Stéphane de Pasquale sur RTL.
J'étais une enfant anxieuse qui avait besoin d'être rassurée tout le temps. J'avais peur des monstres sous mon lit, des cambrioleurs. J'étais une enfant qui demandait, je crois, beaucoup d'attention au moment du coucher essentiellement. Donc je me souviens d'avoir été une enfant qui sollicitait sa grande sœur tout le temps.
Allez, on enchaîne sur une habitude mauvaise en l'occurrence.
J'ai juste cette affreuse manie de sucer mes doigts. C'est pas que je ronge les ongles, c'est que je les mange, tout ce qu'il y a autour. Je suce mes doigts, je les renifle. C'est le geste le plus horrible et le moins féminin que je connaisse.
C'est voilà, génial. Ça c'est intéressant. Mais elle est sincère, elle est super.
C'est pas bien grave. Il y a une dame dont je voudrais que tu nous parles quelques instants seulement, parce que derrière, on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande dame.
Ah, oui.
C'est ta grand-mère.
Ah, ma grand-mère,
c'est génial. Qui est vivante.
Qui est vivante, que j'adore.
Qui a 94 ans.
96 même.
96
ans. Et que j'adore. Je suis très très proche d'elle. Elle a un caractère extra. Elle est quand même en bonne forme. Aujourd'hui, et elle a un tempérament, mais qui ressemble un peu à celui de, je pense, qui se ressemblait dans le tempérament, très énergique,
Jeanne.
Et très énergique. Et de, si j'ai un besoin d'un conseil dans la vie, mais même dans la vie de couple et tout, je lui demande.
C'est un peu Denise Gray dans la boum.
Exactement, c'est ça. Quand je regardais ce film et quand je le vois, je pense à ma grand-mère.
Ah,
je pense beaucoup à elle dans beaucoup de films, mais je lui demande toujours des conseils de vie, des recettes, et elle me dit toujours trésor, fais comme ci, fais comme ça, mais c'est toujours des bons conseils, j'adore.
Qu'est-ce qui reste dans toute la famille de ce nom si prestigieux à porter?
De la fierté, c'est sûr. De la modestie aussi, parce qu'il était très modeste, très anxieux de tout, et ça on l'a un peu tous. On a aussi des petits défauts, hein, que je vois. Je pense souvent à des scènes de films où c'est là que je reconnais un trait de caractère que mon père a ou que moi j'ai. Par exemple, dans La Grande Vadrouille, la première scène où il est chef d'orchestre, il commence à dire c'était bien, c'était très bien,
c'était très,
vous,
bien.
C'était très bien, mais vous c'était moyen, et puis vous, ah non, finalement c'était très mauvais. Et ben ça, c'est un trait de caractère.
Vous l'avez quand même?
Ouais, parce qu'on dit c'était pas mal, et puis finalement non, et puis ah non, puis je suis nul, et puis c'est une catastrophe. Mais voilà, mais c'était
pas mauvais, c'était très mauvais.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est terrible. Hein.
On voit tout par cœur.
Mais ça fait du bien, ces films. Ça, moi, je les regarde quand j'ai un coup de déprime ou quand je suis très heureux, justement.
Moi, j'aime quand ils bafouillent. Quand il est d'une extrême mauvaise foi et qu'il ne peut pas expliquer.
C'est difficile à faire ça.
Alors,
Qui
ça?
Mais oui.
Là-bas. C'est ça?
Extrait de
c'est ce que tu voulais. Alors,
voilà.
Petit carré blanc radiophonique, parce que.
Non.
La question. Oui, je suis un peu.
On est en 2010, Rémi, tu sais.
Oui, mais là, en l'occurrence, en 2008, la question était déjà très indiscrète. Écoute, tu vas comprendre.
Combien de fois par mois vous baisez?
Baise.
Miranda, bon sang.
Quoi?
Elle a 3 ans, elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Même moi, à 41 ans, j'en ai pas la moindre idée.
Sans doute, mais Lily répète tous les mots.
Si j'avais su que la discussion serait soumise à la censure...
C'est fou là, ma fille.
Non, Patrick.
Non, elle a 3 ans, elle s'appelle Lily, la petite fille. C'est ma fille, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle répète pas des choses pareilles.
Alors, il y a Sarah, Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Christine Davis...
Sex and the City.
Gagné!
Bien sûr.
T'as pas soufflé, Gilles.
C'était le film donc, qui est sorti en 2008. Et depuis le 2 juin dernier, il y a eu donc le deuxième opus. Générique que Julia devrait identifier.
Ah. Mais bon...
Pensez à quelqu'un dont vous nous avez parlé tout à l'heure, Julia.
Frédéric.
Quelqu'un qui écoute certainement l'émission.
Inconnu.
Mais oui,
sûr,
rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez.
Exactement.
Petite pépite RTL.
Puisqu'on parle de lui, Frédéric Lopez, l'heureux producteur de votre émission Le Bonheur selon
Alors,
Julia.
L'heureux producteur.
Mm-hmm.
Parce que le reproducteur.
En deux mots,
non,
évidemment.
C'est pas lui,
Alors Frédéric qui nous régale évidemment à travers Rendez-vous en Terre Inconnue depuis décembre 2004, mais aussi avec Panique dans l'Oreillette depuis septembre 2008, dont la première invitée était Florence Foresti. Voilà. Absolument. Nous allons donc l'écouter nous parler de vous, Julia, et de votre émission, mais il va revenir sur votre première rencontre. Ce que vous nous racontiez un petit peu tout à l'heure.
C'est bon.
Ça se passe sur RTL.
C'était connu il y a 12 ans dans une entrevue, elle était stagiaire et elle avait refusé un boulot pour faire des études de philo, donc j'ai vraiment admiré ça. Et 12 ans plus tard, elle m'a proposé effectivement ce programme de philo. Et l'idée, c'était de partir d'une expression courante qu'on utilisait tous les jours et de montrer qu'en fait, on se trompait. C'est pour ça que dans le programme, on dit tous qu'on est épicurien quand on aime bien vivre. Oui, mais non. Et les philosophes disent le contraire. Ouais. Et donc j'adorais l'idée de partir du quotidien et la difficulté consistait à faire ça en 2 minutes.
Voilà, l'art imite la nature.
Oui. On croit que l'art représente ce qu'on voit dans la nature. Un beau coucher de soleil, c'est la représentation d'un coucher de soleil dans la nature. Mais là, j'utilise Oscar Wilde, donc un écrivain plus qu'un philosophe à proprement parler, mais qui nous dit « Mais si on peut voir ce qui se passe dans la nature, si on peut admirer un vrai beau coucher de soleil, c'est parce qu'on a vu des tableaux, on a vu des Turner, ou on a vu des représentations qui nous font être sensibles. Non ?»
Moi, je suis pas, vraiment convaincu.
Par exemple, une belle femme dans un restaurant, on pourrait très bien dire, c'est un Botticelli incarné, parce que elle représente la Vénus de Botticelli, ou c'est un voilà.
Alors il y a la manière. Il y a la manière de le comparer. Ouais. Tu devrais faire de la radio. Il y a la manière de le comparer à un tableau, oui. Mais il y a aussi la manière de l'identifier à une chanson. Et juste après la pub.
Je voulais faire de la philo à partir des chansons.
Juste après la pub, il y aura Christophe Maé qui va chanter. Belle demoiselle.
Et voilà. Donc
bien.
Oh, merci.
C'était fait exprès, évidemment.
Vos plus belles années avec Julia de Funès sur RTL.
Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale. Ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde. Me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Yeah. Si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole. Sans un bruit, alors c'est grave. Ça se bouscule dans ma tête, dopé à l'effet de plaire. C'est pas vraiment la fête, pourtant j'ai l'air de lui plaire. Qu'ai-je fait, oh bon Dieu, pour être fidèle à cet aveu? La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes. Mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Inaccessible comme une hirondelle. Je calcule dans ma tête. J'ose pas m'emballer. Si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle
Belle demoiselle, c'était notre invitée Julia de Funès sur RTL, chantée par Christophe Maé. Succès de l'année 2008.
Voilà, j'ai passé un excellent moment ce matin. Oui. Vous avez passé, je suis sûr, un excellent moment. Le bouquin s'appelle Coup de philo, mettez-y le nez, c'est à la portée de tout le monde.
Sur les
et puis le bonheur selon Julia, sur France 5, si vous n'avez que le livre, que vous n'avez pas la photo, vous allez vous régaler parce qu'elle est magnifique.
Il y a une photo
en
derrière.
En plus, quel est le parfum qui te reste de ton enfance? L'odeur. Quelque chose qui te suit.
Oui, l'odeur, et c'est vrai que ça me suit, c'est la fleur d'oranger, parce que dans la propriété justement de mes grands-parents, les draps, les lits, tout ça, ça sentait la fleur d'oranger. À chaque fois, j'essaye de retrouver vraiment cette odeur-là, et c'était cette propriété-là, ce qu'il sentait. Et puis, lui, il mettait l'eau de Cologne, vous savez, les chiffres, là, 1774, je ne sais même plus les quatre chiffres exacts.
Mon fils me dit 1664, c'est la bière.
Non, 1780, ou je ne sais plus exactement l'eau de Cologne, mais ça sent la fleur d'oranger, ça sent lui, ça sent cette propriété-là.
Donc, si on veut te faire un cadeau, on t'offre de la fleur d'oranger.
Merci beaucoup, Julia.
Merci, Julia.
Merci, Patrick. On se retrouve le week-end prochain. On ne part pas en vacances encore, même si je te laisse le livre. Oui, on se retrouve le week-end prochain et jusqu'à la mi-juillet sur RTL. Place maintenant aux informations et à Christophe Decroix. Il est 12h30.